Théophile Gautier, La chaîne d'or. Plangon, la Milésienne, fut en son temps une des femmes les plus à la mode d'Athènes. Il n'était bruit que d'elle dans la ville. Pontifes, archontes, généraux, satrapes, petits maîtres, jeunes patriciens, fils de famille, tout le monde en raffolait. Sa beauté, semblable à celle d'Hélène aimée de Paris, excitait l'admiration et les désirs des vieillards moroses et regretteurs du temps passé. En effet, rien n'était plus beau que Plangon, et je ne sais pourquoi Vénus, qui fut jalouse de Psyché, ne l'a pas été de notre Milésienne. Peut-être les nombreuses couronnes de roses et de tilleuls, les sacrifices de colombes et de moineaux, les libations du vin de Crète offert par Plangon à la coquette déesse ont-ils détourné son courroux et suspendu sa vengeance. Toujours est-il que personne n'eut de plus heureuses amours que Plangon la Milésienne, surnommée Pacifile. Le ciseau de Cléomène ou le pinceau d'Appel, fils de Franor, pourrait seul donner une idée de l'exquise perfection des formes de Plangon. Qui dira la belle ligne ovale de son visage, son front bas et poli comme l'ivoire, son nez droit, sa bouche ronde et petite, son menton bombé, ses joues aux pommelles aplaties, ses yeux aux coins allongés qui brillaient comme deux astres jumeaux entre deux étroites paupières, sous un sourcil délicatement effilé à ses pointes. À quoi comparer les ondes crépelées de ses cheveux, si ce n'est à l'or, roi des métaux et au soleil? À l'heure où le poitrail de ses coursiers plonge déjà dans l'humide litière de l'océan, quel mortel eut jamais des pieds aussi parfaits? Thétis elle-même, à qui le vieux Mélésigène a donné l'épithète des pieds d'argent, ne pourrait soutenir la comparaison pour la petitesse et la blancheur. Ses bras étaient ronds et purs comme ceux d'Hébé, la déesse au bas de neige. La coupe dans laquelle Hébé sert l'ambroisie aux dieux avait servi de moule pour sa gorge, et les mains si vantées de l'aurore ressemblaient, à côté des siennes, aux mains de quelque esclave employé à des travaux pénibles. Après cette description, vous ne serez pas surpris que le seuil de Plangon fût plus adoré qu'un autel de la grande déesse. Toutes les nuits, des amants plaintifs venaient huiler les jambages de la porte et les degrés de marbre avec les essences et les parfums les plus précieux. Ce n'étaient que guirlandes et couronnes tressées de bandelettes, rouleaux de papyrus et tablettes de cire avec des distiques, des élégies et des épigrammes. Il fallait tous les matins déblayer la porte pour l'ouvrir, comme l'ont fait aux régions de la City, quand la neige tombait la nuit et obstruait le seuil de ses maisons. Plangon, dans toute cette foule, prenait les plus riches et les plus beaux de préférence. Un archonte durait 8 jours, un grand pontife 15 jours. Il fallait être roi, satrape ou tyran, pour aller jusqu'au bout du mois. Leur fortune bue, elle les faisait jeter dehors par les épaules, aussi dénudés et mal en point que des philosophes cyniques. Car Plangon, nous avons oublié de le dire, n'était ni une noble et chaste matrone, ni une jeune vierge dansant la bibase. Au fait de Diane, mais tout simplement une esclave affranchie, exerçant le métier d'étahir. Depuis quelque temps, Plangon paraissait moins dans les théories, les fêtes publiques et les promenades. Elle ne se livrait pas à la ruine des satrapes avec le même acharnement, et les dariques de Pharnabase, d'Artaban et de Tissaferne s'étonnaient de rester dans les coffres de leur maître. Plangon ne sortait plus que pour aller au bain, en litière fermée, soigneusement voilée, comme une honnête femme. Plangon n'allait plus souper chez les jeunes débauchés, chanter des hymnes à Bacchus, le père de joie, en s'accompagnant sur la lyre. Elle avait récemment refusé une invitation d'Alcibiade. L'alarme se répandait parmi les merveilleux d'Athènes, quoi. Plangon, la belle Plangon, notre amour, notre idole, la reine des orgies, Plangon qui danse si bien au son des crotales, et qui tord ses flancs lascifs avec tant de grâce et de volupté sous le feu des lampes de fête, Plangon au sourire étincelant, à la répartie brusque et mordante, l'œil, la fleur, la perle des bonnes filles, Plangon de Millet, Plangon se range, n'a plus que 3 amants à la fois, reste chez elle et devient vertueuse comme une femme laide. Par Hercule, c'est étrange! Et voilà qui déroute toutes les conjectures. Mais qui donnera le ton? Qui décidera de la mode? Dieu immortel, qui pourra jamais remplacer Plangon, la jeune, Plangon la folle, Plangon la charmante? Les beaux seigneurs d'Athènes se disaient cela en se promenant le long des propylées ou accoudés nonchalamment sur la balustrade de marbre de l'Acropole. Ce qui vous étonne, mes beaux seigneurs athéniens, mes précieux satrapes à la barbe frisée, est une chose toute simple. C'est que vous ennuyez Plangon qui vous amuse. Elle est lasse de vous donner de l'amour et de la joie pour de l'or. Elle perd trop au marché. Plangon ne veut plus de vous. Quand vous lui apporteriez les dariques et les talents à plein boisseau, sa porte serait sourde à vos supplications. Alcibiade, Axiochus, Callimaque, les plus élégants, les plus renommés de la ville, n'y feraient que blanchir. Si vous voulez des courtisanes, allez chez Arkenassa, chez Flore ou chez l'ami. Plangon n'est plus une courtisane. Elle est amoureuse. Amoureuse, mais de qui? Nous le saurions, nous sommes toujours informés 8 jours d'avance de l'état du cœur de ces dames. N'avons-nous pas la tête sur tous les oreillers et les coudes sur toutes les tables? Mes chers seigneurs, ce n'est aucun de vous qu'elle aime, soyez-en sûrs, elle vous connaît trop pour cela. Ce n'est pas vous, Cléon, le dissipateur, elle sait bien que vous l'avez que pour les chiens de la colonie, les parasites, les joueurs de flûte, les eunuques, les nains et les perroquets des Indes. Oh, ni vous, Hipparque, qui ne savez parler d'autre chose que de votre quadrige de chevaux blancs et des prix remportés par vos cochers aux Jeux olympiques. Plangon se plaît fort peu à tous ces détails d'écurie qui vous charment si fort. Ce n'est pas vous non plus, Thrasyle, l'efféminé. La peinture dont vous teignez les sourcils, le fard qui vous plâtre les joues, l'huile et les essences dont vous vous inondez impitoyablement, tous ces onguents, toutes ces pommades qui font douter si votre figure est un ulcère ou une face humaine, ravissent médiocrement Plangon. Elle n'est guère sensible à tous vos raffinements d'élégance, et c'est en vain que pour lui plaire vous semez votre barbe blonde de poudre d'or et de paillettes, que vous laissez démesurément pousser vos ongles et que vous faites traîner jusqu'à terre les manches de votre robe à la persique. Ce n'est pas Timandre le patrice à couture de portefeuille, ni Glossio l'imbécile qui aura ravi le cœur de Plangon. Aimable représentant de l'élégance et de l'atticisme d'Athènes, jeune victorieux, charmant triomphateur, je vous le jure, jamais vous avez été aimé de Plangon. Et je vous certifie en outre que son amant n'est pas un athlète, un imbossu, un philosophe ou un nègre, comme veut l'insinuer Axiochus. Ben, je comprends qu'il est douloureux de voir la plus belle fille d'Athènes vivre dans la retraite comme une vierge qui se prépare à l'initiation des mystères d'Éleusis, et qu'il est ennuyeux pour vous de ne plus aller dans cette maison vous passiez le temps d'une manière si agréable, en jouant aux dés, aux osselets, en parlant l'un contre l'autre vos sages, vos maîtres, d'une manière si agréable, en jouant de toute façon, et vos maîtresses, et vos maisons de campagne, vos grammairiens et vos poètes. Il était charmant de voir danser les sveltes africaines avec leurs grêles cymbales, d'entendre un jeune esclave jouant de la flûte à 2 tuyaux sur le mode ionien, couronné de lierre, renversé mollement sur des lits à pied d'ivoire, tout en buvant un petit coup du vin de Chypre rafraîchi dans la neige de Limette. Il plaît à Pangon, de la Milésienne, de n'être plus une femme à la mode. Elle a résolu de vivre un peu pour son compte. Elle veut être gaie ou triste, debout ou couchée, selon sa fantaisie. Elle ne vous a que trop donné de sa vie. Si elle pouvait vous reprendre les sourires, les bons mots, les œillades, les baisers qu'elle vous a prodigués, l'insouciante est à haïr, mais elle le ferait. L'éclat de ses yeux, la blancheur de ses épaules, la rondeur de ses bras, ce sujet ordinaire de vos conversations, que ne donnerait-elle pas pour en effacer le souvenir de votre mémoire? Comme ardemment elle a désiré vous être inconnue, qu'elle a envié le sort de ces pauvres filles obscures qui fleurissent timidement à l'ombre de leur mère. Plaignez-la, c'est son premier amour. Dès ce jour-là, elle a compris la virginité et la pudeur. Elle a renvoyé Pharnabaz, le grand satrape, quoiqu'elle lui eût encore dévoré qu'une province et refusé tout l'aide Clearchus, un beau jeune homme qui venait d'hériter. Toute la fashion athénienne est révoltée de cette vertu ignoble et monstrueuse. Axiocus demande ce que vont devenir les fils de famille et comment ils s'y prendront pour se ruiner. Alcibiade veut mettre le feu à la maison et enlever Plangon de vive force au dragon égoïste qui la garde pour lui seul, prétention exorbitante. Cléon appelle la colère de Vénus, pandémos sur son infidèle prêtresse. Et Thrasyle est si désespéré qu'il ne se fait plus friser que deux fois par jour. L'amant de Plangon est un jeune enfant, si beau qu'on le prendrait pour Hyacinthe, l'ami d'Apollon. Une grâce divine accompagne tous ses mouvements comme le son d'une lyre. Ses cheveux noirs et bouclés roulent en ondes luisantes sur ses épaules lustrées et blanches comme le marbre de Paros, et ils pendent au long de sa charmante figure, pareils à des grappes de raisin mûr. Une robe du plus fin lin s'arrange autour de sa taille en plis souples et légers, des bandelettes blanches tramées de fils d'or montent en se croisant autour de ses jambes bronzées et polies, si belle que Diane, la svelte chasseresse, les eut jalousées. Le pouce de son pied, légèrement écarté des autres doigts, rappelle les pieds d'ivoire des dieux qui n'ont jamais foulé que l'azur du ciel ou la laine fléconneuse des nuages. Il est accoudé sur le dos du fauteuil de Plangon. Plangon est à sa toilette, des esclaves mauresques passe dans sa chevelure des peignes de buis finement denticulés, tandis que de jeunes enfants, agenouillés, lui polissent les talons avec de la pierre ponce et brillantent ses ongles en les frottant à la dent de loup. Une draperie de laine blanche, jetée négligemment sur son beau corps, boit les dernières perles que la naïade du bain a laissées suspendues à ses bras. Des boîtes d'or, des coupes et des fioles d'argent ciselées par Callimaque et Miron, posées sur des tables de porphyre africain, contiennent tous les ustensiles nécessaires à sa toilette. Les odeurs, les essences, les pommades, les fers à friser, les épingles, les poudres à épiler, les petits ciseaux d'or. Au milieu de la salle, un dauphin de bronze, chevauché par un cupidon, souffle à travers ses narines barbelées deux jets, l'un d'eau froide, l'autre d'eau chaude, dans deux bassins d'albâtre oriental, où les femmes de service vont alternativement tremper leurs blondes éponges. Par les fenêtres, dont un léger zéphyr fait voltiger les rideaux de pourpre, on aperçoit un ciel d'un bleu lapis et les cimes des grands lauriers roses qui sont plantés au pied de la muraille. Plangon, malgré les observations timides de ses femmes, au risque de renverser de fond en comble l'édifice déjà avancé de sa coiffure, se détourne pour embrasser l'enfant. C'est un groupe d'une grâce adorable et qui appelle le ciseau du sculpteur. Hélas, hélas, Plangon la belle, votre bonheur ne doit pas durer. Vous croyez donc que vos amis, Arkenassa, Thaïs, Flora et les autres, souffriront que vous soyez heureuse en dépit d'elle? Vous vous trompez, Plangon. Cet enfant que vous voudriez dérober à tous les regards et que vous tenez prisonnier dans votre amour, on fera tous les efforts possibles pour vous l'enlever. Par le Styx, c'est insolent à vous, Plangon, d'avoir voulu être heureuse à votre manière et de donner à la ville le scandale d'une passion vraie. Un esclave, soulevant une portière de tapisserie, s'avance timidement vers Plangon et lui chuchote à l'oreille que l'ami et Arkenassa viennent lui rendre visite et qu'il ne les précède que de quelques pas. « Va-t'en, ami, dit Plangon à l'enfant, je ne veux pas que ces femmes te voient. Je ne veux pas qu'on me voile rien de ta beauté, même la vue. Je souffre horriblement quand une femme te regarde. » L'enfant obéit, mais cependant, il ne se retira pas si vite que l'ami qui entrait au même moment avec Arkenassa, lançant de côté son coup d'œil venimeux, n'eut le temps de le voir et de le reconnaître. Eh, bonjour, ma belle colombe! Et cette chère santé, comment l'amenons-nous? Mais vous avez l'air parfaitement bien portante. Qui donc disait que vous aviez fait une maladie qui vous avait défigurée et que vous n'osiez plus sortir tant vous étiez devenue laide? Dit l'ami en embrassant Plangon avec des démonstrations de joie exagérées. C'est Tracile qui a dit cela, fit Arkenassa. Et je vous engage à le punir en le rendant encore plus amoureux de vous qu'il ne l'est et en ne lui accordant jamais la moindre faveur. Mais que vais-je vous dire? Vous vivez dans la solitude comme un sage qui cherche le système du monde. Vous ne vous souciez plus des choses de la terre. Qui aurait dit que Plangon devint jamais philosophe? Oh, cela ne vous empêche guère de sacrifier à l'amour et aux grâces. Notre philosophie n'a pas de barbe, n'est-ce pas, Plangon? Et je viens de l'apercevoir qui se dérobait par cette porte sous la forme d'un joli garçon. C'était, si je ne me trompe, Ctésias de Colophon. Tu sais ce que je veux dire, l'ami, l'amant de Bacchide de Samos. Plangon changea de couleur, s'appuya sur le dos de sa chaise d'ivoire et s'évanouit. Les deux amis se retirèrent en riant, satisfaits d'avoir laissé tomber dans le bonheur de Plangon un caillou qui en troublait pour longtemps la claire surface. Au cri des femmes éplorées qui se hâtaient autour de leur maîtresse, Ctésias rentra dans la chambre et son étonnement fut grand de trouver évanouie une femme qu'il venait de laisser souriante et joyeuse. Il baigna ses tempes d'eau froide, lui frappa dans la paume des mains, lui brûla sous le nez une plume de faisan, et parvint enfin à lui faire ouvrir les yeux. Mais aussitôt qu'elle l'aperçut, elle s'écria avec un geste de dégoût « Va-t'en, misérable, va-t'en, et que je ne te revoie jamais !» Ctésias, surpris au dernier point de si dures paroles, ne sachant à quoi les attribuer, se jeta à ses pieds et, tenant ses genoux embrassés, lui demanda en quoi il avait pu lui déplaire. Plangon, dont le visage de pâle était devenu pourpre et dont les lèvres tremblaient de colère, se dégagea de l'étreinte passionnée de son amant et lui répéta la cruelle injonction. Voyant que Ctésias, abîmé dans sa douleur, ne changeait pas de posture et restait affaissé sur ses genoux, elle fit approcher deux esclaves scythes, colosses à cheveux roux et à prunelles glauques, et avec un geste impérieux, « Jetez-moi, dit-elle, cet homme à la porte !» Les deux géants soulevèrent l'enfant sur leurs bras velus, comme si c'eût été une plume, le portèrent par des couloirs obscurs jusqu'à l'enceinte extérieure, puis ils le posèrent délicatement sur ses pieds, et quand Ctésias se retourna, il se trouva nez à nez avec une belle porte de cèdre semée de clous d'airain, fort proprement taillée en pointe de diamant, et disposée de manière à former des symétries et des dessins. L'étonnement de Ctésias avait fait place à la rage la plus violente. Il se lança contre la porte comme un fou ou comme une bête fauve. Mais il aurait fallu un bélier pour l'enfoncer, et sa blanche et délicate épaule, que faisait rougir un baiser de femme un peu trop ardemment appliqué, fut bien vite meurtrie par les clous à six facettes et la dureté du cèdre. Force lui fut de renoncer à sa tentative. La conduite de Plangon lui paraissait monstrueuse et l'avait exaspéré au point qu'il poussait les rugissements comme une panthère blessée et s'arrachait avec ses mains meurtries de grandes poignées de cheveux. « Pleurez, Cupidon et Vénus !» Enfin, dans le dernier paroxysme de la rage, il ramassa des cailloux et les jeta contre la maison de l'Étahir, les dirigeant surtout vers les ouvertures des fenêtres, en promettant en lui-même 100 vaches noires aux dieux infernaux si l'une de ces pierres rencontrait la tente de Plangon. Antéros avait traversé d'outre en outre son cœur avec une de ses flèches de plomb, et il haïssait plus que la mort celle qu'il avait tant aimée. Effet ordinaire de l'injustice dans les cœurs généreux. Cependant, voyant que la maison restait impassible et muette, et que les passants, étonnés de ses extravagances, commençaient à s'attrouper autour de lui, à lui tirer la langue et à lui faire les oreilles de lièvre, il s'éloigna à pas lents et se fut logé dans une petite chambrette à peu de distance du palais de Plangon. Il se jeta sur un mauvais grabat composé d'un matelas fort mince et d'une méchante couverture, et se mit à pleurer amèrement. 1000 résolutions plus déraisonnables les unes que les autres lui passèrent par la cervelle. Il voulait attendre Plangon au passage et la frapper de son poignard. Un instant, il eut l'idée de retourner à Colophon, d'armer ses esclaves et de l'enlever de vive force, après avoir mis le feu à son palais. Après une nuit d'agitation, passée sans que Morphée, ce pâle frère de la mort, fût venu toucher ses paupières du bout de son caducée, il reconnut ceci, à savoir qu'il était plus amoureux que jamais de Plangon, et qu'il lui était impossible de vivre sans elle. Il avait beau s'interroger en tous sens, avec les délicatesses et les scrupules de la conscience la plus timorée, il ne se trouvait pas en faute et ne savait quoi se reprocher qui excusa la conduite de Plangon. Depuis le jour où il l'avait connue, il était resté attaché à ses pas comme une ombre, n'avait été ni au bain, ni au gymnase, ni à la chasse, ni aux orgies nocturnes avec les jeunes gens de son âge. Ses yeux ne s'étaient pas arrêtés sur une femme. Il n'avait vécu que pour son amour. Jamais vierge pure et sans tache n'avait été adorée comme Plangon l'Étahir. Alors à quoi donc attribuer ce revirement subit? Ce changement si complet, opéré en si peu de temps, venait-il de quelque perfidie d'Orkenassa et de l'ami ou simple caprice de Plangon? Mais que pouvaient donc lui avoir dit ces femmes pour que l'amour le plus tendre se tournât en haine et en dégoût sans cause apparente? L'enfant se perdait dans un dédale de conjectures et n'aboutissait à rien de satisfaisant. Mais dans tout ce chaos de pensées, au bout de tous ces carrefours et de ces chemins sans issue, s'élevait comme une morne et pâle statue cette idée. Il faut que Plangon me rende son amour ou que je me tue. Plangon, de son côté, n'était pas moins malheureuse. L'intérêt de sa vie était détruit. Avec Tessias, son âme s'en était allée. Elle avait éteint le soleil de son ciel. Tout autour d'elle lui semblait mort et obscur. Elle s'était informée de Bacchide et elle avait appris que Ctésias l'avait aimée, éperdument aimée, pendant l'année qu'il était resté à Samos. Elle croyait être la première aimée de Ctésias et avoir été son initiatrice aux deux mystères. Ce qui l'avait charmée dans cet enfant, c'était son innocence et sa pureté. Elle retrouvait en lui la virginale candeur qu'elle n'avait plus. Il était pour elle quelque chose de séparé, de chaste et de saint, un hôtel inconnu où elle répandait les parfums de son âme. Un mot avait détruit cette joie. Le charme était rompu. Cela devenait un amour, comme tous les autres, un amour vulgaire et banal. Ces charmants propos, ces divines et pudiques caresses qu'elle croyait inventées pour elle, tout cela avait déjà servi pour une autre. Ce n'était qu'un écho, sans doute affaibli d'autres discours de même sorte, un manège convenu, un rôle de perroquet appris par cœur. Plangon était tombé du haut de sa seule illusion qu'elle eût jamais eue, et comme une statue que l'on pousse du haut d'une colonne, elle s'était brisée dans sa chute. Dans sa colère, elle avait mutilé une délicieuse figure d'Aphrodite, à qui elle avait fait bâtir un petit temple de marbre blanc au fond de son jardin, en souvenir de ses belles amours. Mais la déesse, touchée de son désespoir, ne lui en voulut pas de cette profanation, et ne lui infligea pas le châtiment qu'elle eût attiré de la part de toute autre divinité plus sévère. Toutes les nuits, Ctésias allait pleurer sur le seuil de Plangon, comme un chien fidèle qui a commis quelque faute et que le maître a chassé du logis et qui voudrait y rentrer. Il baisait cette dalle où Plangon avait posé son pied charmant. Il parlait à la porte et lui tenait les plus tendres discours pour l'attendrir. Éloquence perdue, la porte était sourde et muette. Enfin, il parvint à corrompre un des portiers et à s'introduire dans la maison. Il courut à la chambre de Plangon, qu'il trouva étendu sur son lit de repos, le visage mat et blanc, les bras morts et pendants, dans une attitude de découragement complet. Cela lui donna quelque espoir. Il se dit « Elle souffre, elle m'aime donc encore. » Il s'avança vers elle et s'agenouilla à côté du lit. Plangon, qui ne l'avait pas entendu entrer, fit un geste de brusque surprise en le voyant, et se leva à demi comme pour sortir, mais, ses forces la trahissant, elle se recoucha, ferma les yeux et ne donna plus signe d'existence. « Oh, ma vie, oh, mes belles amours, mais que vous ai-je donc fait pour que vous me repoussiez ainsi ?» Et en disant cela, Ctésias baisait ses bras froids et ses belles mains qui l'inondaient de tièdes larmes. Plangon se laissait faire, comme si elle n'eût pas daigné s'apercevoir de sa présence. « Mais Plangon, ma chère, ma belle Plangon, Si vous ne voulez pas que je meure, rendez-moi vos bonnes grâces. Aimez-moi comme autrefois. Je te jure, ô Plangon, que je me tuerai à tes pieds si tu ne me relèves pas avec une douce parole, un sourire ou un baiser. Mais comment faut-il acheter mon pardon ? Implacable. Je suis riche. Je te donnerai des vases ciselés, des robes de pourpre teintes deux fois, des esclaves noirs et blancs, des colliers d'or, des unions de perles. Mais parle ! Comment puis-je expier une faute que je n'ai pas commise ? Je ne veux rien de tout cela. Apporte-moi la chaîne d'or de Bacchide de Samos, dit Plangon avec une amertume inexprimable. Et je te rendrai mon amour. Ayant dit ces mots, elle se laissa glisser sur les pieds, traversa la chambre et disparut derrière un rideau comme une blanche vision. La chaîne de Bacchide de la Samienne n'était pas, comme l'on pourrait se l'imaginer, un simple collier faisant deux ou trois fois le tour du cou et précieux par l'élégance et la perfection du travail. C'était une véritable chaîne, aussi grosse que celle dont on attache les prisonniers condamnés au travail des mines, de plusieurs coudées de long et de l'or le plus pur. Bacchide ajoutait tous les mois quelques anneaux à cette chaîne. Quand elle avait dépouillé quelques rois de l'Asie mineure, quelques grands seigneurs persans, quelques riches propriétaires athéniens, elle faisait fondre l'or qu'elle en avait reçu et allongeait sa précieuse chaîne. Cette chaîne doit servir à la faire vivre quand elle sera devenue vieille et que les amants, effrayés d'une ride naissante, d'un cheveu blanc mêlé dans une noire tresse, iront porter leurs vœux et leurs sesterces chez quelque étahir moins célèbre mais plus jeune et plus fraîche. Prévoyante fourmi, Bacchide, à travers sa folle vie de courtisane, tout en chantant comme les rauques cigales, pense que l'hiver doit venir et se ramasse des grains d'or pour la mauvaise saison. Elle sait bien que les amants, qui récitent aujourd'hui des vers hexamètres et pentamètres devant son portique, la feraient jeter dehors et pelauder à grand renfort de coups de fourche par leurs esclaves si, vieillie et recourbée par la misère, elle allait supplier leur seuil et embrasser le coin de leur hôtel domestique. Mais avec sa chaîne dont elle détachera tous les ans un certain nombre d'anneaux, elle vivra libre, obscure et paisible dans quelques bourgs ignorés, et s'éteindra doucement, en laissant de quoi payer d'honorables funérailles et fonder quelques chapelles à Vénus protectrice. Telles étaient les sages précautions que Bacchide l'Étahir avait cru devoir prendre contre la misère future et le dénuement des dernières années. Car une courtisane n'a pas d'enfants, pas de parents, pas d'amis. Rien qui se rattache à elle, il faut en quelque sorte qu'elle se ferme les yeux à elle-même. Demander la chaîne de Bacchide, c'était demander quelque chose d'aussi impossible que d'apporter la mère dans un crible. Autant il valut exiger une pomme d'or du jardin des Hespérides. La vindicative Plangon le savait bien. Comment, en effet, penser que Bacchide pût se dessaisir en faveur d'une rivale, du fruit des épargnes de toute sa vie, de son trésor unique, de sa seule ressource pour les temps contraires. Aussi était-ce bien un congé définitif que Plangon avait donné à notre enfant, et comptait-elle bien ne le revoir jamais. Cependant, Ctésias ne se consolait pas de la perte de Plangon. Toutes ses tentatives pour la rejoindre et lui parler avaient été inutiles, et il ne pouvait s'empêcher d'errer comme une ombre autour de la maison, malgré les quolibets dont les esclaves l'accablaient et les amphores d'eau sale qu'il lui versait sur la tête en manière de dérision. Enfin, il résolut de tenter un effort suprême. Il descendit vers le Pirée et vit une trirème qui appareillait pour Samos. Il appela le patron et lui demanda s'il ne pouvait le prendre à son bord. Le patron, touché de sa bonne mine, et encore plus des 3 pièces d'or qu'il lui glissa dans la main, accéda facilement à sa demande. On leva l'ancre, les rameurs nus et frottés d'huile se courbèrent sur leurs bancs et la nef s'ébranla. C'était une belle nef nommée Largo. Elle était construite en bois de cèdre qui ne pourrit jamais. Le grand mât avait été taillé dans un pin du mont Ida. Il portait 2 grandes voiles en lin d'Égypte, l'une carrée et l'autre triangulaire. Toute la coque était peinte à l'encaustique, et sur le bordage, on avait représenté au vif des Néréides et des Tritons jouant ensemble. C'était l'ouvrage d'un peintre devenu bien célèbre depuis et qui avait débuté par barbouiller des navires. Les curieux venaient souvent examiner le bordage de l'Argo pour comparer les chefs-d'œuvre du maître à ses commencements. Mais quoique Ctésias fût un grand amateur de peinture et qu'il se plût à former des cabinets, il ne jeta pas seulement ses yeux sur les peintures de l'Argo. Il n'ignorait pourtant pas cette particularité, mais il n'avait plus de place dans le cerveau que pour une idée, et tout ce qui n'était pas plangon n'existait pas pour lui. L'eau bleue, coupée et blanchie par les rames, filait écumeuse sur les flancs polis de la trirème. Les silhouettes vaporeuses de quelques îles se dessinaient dans le lointain et fuyaient bien vite derrière le navire. Le vent se leva, l'on haussa la voile qu'il palpita incertaine quelques instants et finit par se gonfler et s'arrondir comme un sein plein de lait. Les rameurs haletants se mirent à l'ombre sous leurs bancs et il ne resta sur le pont que 2 matelots, le pilote et Ctésias, qui était assis au pied du mât, tenant sous son bras une petite cassette où il y avait 3 bourses d'or et 2 poignards affilés tout neufs, sa seule ressource et son dernier recours s'il ne réussissait pas dans sa tentative désespérée. Voici ce que l'enfant voulait faire. Il voulait aller se jeter aux pieds de Bakide, baigner de larmes ses belles mains et la supplier par tous les dieux du ciel et de l'enfer, par l'amour qu'elle avait pour lui, par pitié pour sa vieille mère que sa mort pousserait au tombeau, par tout ce que l'éloquence de la passion pourrait évoquer de touchant et de persuasif, de lui donner la chaîne d'or que Plangon demandait comme une condition fatale de sa réconciliation avec lui. Vous voyez bien que Ctésias de Colophon avait complètement perdu la tête. Cependant, toute sa destinée pendait au fil fragile de cet espoir. Cette tentative manquée, il ne lui restait plus qu'à ouvrir, avec le plus aigu de ses 2 poignards, une bouche vermeille sur sa blanche poitrine, pour le froid baiser de la parque. Pendant que l'enfant colophonien pensait à toutes ces choses, le navire filait toujours, de plus en plus rapide, et les derniers reflets du soleil couchant jouaient encore sur les reins polis des boucliers suspendus à la poupe, lorsque le pilote cria « Terre, terre !» L'on était arrivé à Samos. Dès que l'aurore blonde eut soulevé du doigt les 2 rideaux de son lit couleur de safran, l'enfant se dirigea vers la demeure de Bakide le plus lentement possible, car, singularité piquante, il avait maudit la nuit trop lente et aurait été poussé lui-même les roues de son char sur la courbe du ciel. Et maintenant, il avait peur d'arriver et prenait le chemin le plus long, et marchait à petits pas. c'est qu'il hésitait à perdre son dernier espoir et reculait au moment de trancher lui-même le nœud de sa destinée. Il savait qu'il n'avait plus que ce coup de dé à jouer. Il tenait le cornet à la main et n'osait pas lancer sur la table le cube fatal. Il arriva, cependant, et en touchant le seuil, il promit 20 génisses blanches aux cornes dorées à Mercure, dieu de l'éloquence, et 100 couples de tourterelles à Vénus, qui change les cœurs. Une ancienne esclave de Bacchide le reconnut. « Quoi, c'est vous, Ctesias? Pourquoi la pâleur des morts habite-t-elle sur votre visage? Vos cheveux s'éparpillent en désordre. Vos épaules ne sont plus frottées d'essence. Le pli de votre manteau pend au hasard. Vos bras ni vos jambes ne sont plus épilés. Vous êtes négligé dans votre toilette comme le fils d'un paysan ou comme un poète lyrique. Mais dans quelle misère êtes-vous tombé? Quel malheur vous est-il arrivé? Vous étiez autrefois le modèle des élégants. Que les dieux me pardonnent, votre tunique est déchirée à deux endroits. Eriphile, non, je ne suis pas misérable, je suis malheureux. Prends cette bourse et fais-moi parler sur le champ à ta maîtresse. » La vieille esclave, qui avait été nourrice de Bacchide, et à cause de cela jouissait de la faveur de pénétrer librement dans sa chambre à toute heure du jour, alla trouver sa maîtresse et pria Ctésias de l'attendre à la même place. « Eh bien, Eriphile, dit Bacchide en la voyant entrer avec une mine compassée, ridée, pleine d'importance et de servilité à la fois. Quelqu'un qui vous a beaucoup aimé demande à vous voir, et il est si impatient de jouir de l'éclat de vos yeux qui m'a donné cette bourse pour hâter les négociations. Quelqu'un qui m'a beaucoup aimé, dit Bacchide un peu ému. Bon, ils disent tout cela. Il n'y a que Ctésias de Colophon qui m'a véritablement aimé. Ben aussi, est-ce le seigneur Ctésias de Colophon, personne? Ctésias, dis-tu? Ctésias, mon bien-aimé Ctésias, il est là qui demande à me voir, mais va, cours aussi vite que tes jambes chancelantes pour te le permettre et amène-le sans plus tarder. Eriphile sortit avec plus de rapidité que l'on eût pu en attendre de son grand âge. Bacchide de Samos est une beauté d'un genre tout différent de celui de Plangon. Elle est grande, svelte, bien faite. Elle a les yeux et les cheveux noirs, la bouche épanouie, le sourire étincelant, le regard humide et lustré, le son de voix charmant, les bras ronds et forts, terminés par des mains d'une délicatesse parfaite. Sa peau est d'un brun plein de feu et de vigueur, dorée de reflets blonds comme le cou de Cérès après la moisson. Sa gorge, fière et pure, soulève deux beaux plis à sa tunique de byssus. Plangon et Bacchide sont sans contredit les deux plus ravissantes étaïres de toute la Grèce, et il faut convenir que Ctésias, celui qui a été l'amant de Bacchide et de Plangon, fut un mortel bien favorisé des dieux. Eriphile revint avec Ctésias. L'enfant s'avança jusqu'au petit lit de repos où Bacchide était assise, les pieds sur un escabeau d'ivoire. À la vue de ses anciennes amours, Ctésias sentit en lui-même un mouvement étrange. Un flot d'émotions violentes tourbillonna dans son cœur, et, faible comme il était, épuisé par les pleurs, les insomnies, le regret du passé et l'inquiétude de l'avenir, il ne put résister à cette épreuve. et tomba affaissé sur ses genoux, la tête renversée en arrière, les cheveux pendants, les yeux fermés, les bras dénoués, comme si son esprit eût été visité la demeure des mânes. Bakid, effrayé, souleva l'enfant dans ses bras avec l'aide de sa nourrice et le posa sur son lit. Quand Ctésias ouvrit les yeux, il sentit à son front la chaleur humide des lèvres de Bakid qui se penchait sur lui avec l'expression d'une tendresse inquiète. « Mais comment te trouves-tu, ma chère âme ?» dit Bakid, qui avait attribué l'évanouissement de Ctésias à la seule émotion de la revoir. « Oh, Bakid, il faut que je meure !» dit l'enfant d'une voix faible, en enlaçant le col de l'Étahir avec ses bras amaigris. « Mourir, enfant, et pourquoi donc? N'es-tu pas beau, n'es-tu pas jeune, n'es-tu pas aimé? Mais quelle femme, hélas, ne t'aimerait pas? À quel propos parler de mourir? C'est un mot qui ne va pas dans une aussi belle bouche. Quelle espérance t'a menti? Quel malheur t'est-il donc arrivé? Ta mère est-elle morte? Cérès a-t-elle détourné ses yeux d'or de tes moissons? Bacchus a-t-il foulé d'un pied dédaigneux les grappes non encore mûres de tes coteaux? Cela est impossible. La fortune qui est une femme ne peut avoir de rigueur pour toi. Bakid, toi seule peux me sauver, toi la meilleure et la plus généreuse des femmes. Mais non, je n'oserais jamais te le dire. C'est quelque chose de si insensé que tu me prendrais pour un fou échappé d'Anticyre. Mais parle, enfant. Toi que j'ai tant aimé, que j'aime tant encore, bien que tu m'aies trahi pour une autre. Bon, que Vénus vengeuse l'accable de son courroux, que pourrais-tu donc me demander qu'il ne te soit accordé sur le champ, quand ce serait ma vie? Bakid, il me faut ta chaîne d'or, dit Ctésias d'une voix à peine intelligible. Tu veux ma chaîne, enfant? Et pourquoi faire? Est-ce pour cela que tu veux mourir? Et que signifie ce sacrifice? Répondit Bakid, surprise. Écoute, ô ma belle Bakid, et sois bonne pour moi, comme tu l'as toujours été. J'aime Plangon, la Milésienne. Je l'aime jusqu'à la frénésie, Bakid. Un de ses regards vaut plus à mes yeux que l'or des rois, plus que le trône des dieux, plus que la vie. Sans elle, je meurs. Il me la faut, elle est nécessaire à mon existence, comme le sang de mes veines, comme la moelle de mes os. Je ne puis respirer d'autre air que celui qui a passé sur ses lèvres. Pour moi, tout est obscur où elle n'est pas. Je n'ai d'autre soleil que ses yeux. Quelque magicienne de Thessalie m'a sans doute ensorcelé. Hélas, que dis-je? Le seul charme magique, c'est sa beauté, qui n'a d'égal au monde que la tienne. Je la possédais, je la voyais tous les jours, je m'enivrais de sa présence adorée comme d'un nectar céleste. Elle m'aimait comme tu m'as aimé, Bakid. Mais ce bonheur était trop grand pour durer. Les dieux furent jaloux de moi, et Plangon m'a chassé de chez elle. J'y suis revenu à plat ventre comme un chien, et elle m'a encore chassé. Plangon, la flamme de ma vie, mon âme, mon bien, Plangon me hait, Plangon m'exècre. Elle ferait passer les chevaux de son char sur mon corps couché en travers de sa porte. Oh, je suis bien malheureux. Ctésias, suffoqué par des sanglots, s'appuya contre l'épaule de Bakid et se mit à pleurer amèrement. Ah, oh, mais ce n'est pas moi qui aurais jamais eu le courage de te faire tant de chagrin, dit Bakida en mêlant ses larmes à celles de son ancien amant. Mais que puis-je pour toi, mon pauvre désolé? Et qu'ai-je de commun avec cet affreux Splangon? Je ne sais, reprit l'enfant qui lui a appris notre liaison, mais elle l'a su. Ce doit être cette venimeuse Arkenassa, qui cache sous ses paroles mielleuses un fiel plus âcre que celui des vipères et des aspics. Cette nouvelle a jeté Plangon dans un tel accès de rage qu'elle n'a plus voulu seulement m'adresser la parole. Elle est horriblement jalouse de toi, Bakide, et t'en veut pour m'avoir aimé avant elle. Elle se croyait la première dans mon cœur et son orgueil blessé a tué son amour. Tout ce que j'ai pu faire pour l'attendrir a été inutile. Elle ne m'a jamais répondu que ces mots. Apporte-moi la chaîne d'or de Bakide de Samos et je te rendrai mes bonnes grâces. Ne reviens pas sans elle, car je dirai à mes esclaves scythes de lancer sur toi mes molosses de Laconie et je te ferai dévorer. Voilà ce que répliquaient à mes prières les plus vives, à mes adorations les plus prosternées, l'implacable Plangon. Moi, j'ai dit, si je ne puis jouir de mes amours, comme autrefois, je me tuerai. Et en disant ces mots, l'enfant tira du pli de sa tunique un poignard à manche d'agate dont il fit mine de se frapper. Bakide pâlit et lui saisit le bras au moment où la pointe effilée de la lame allait atteindre la peau douce et polie de l'enfant. Elle lui desserra la main et jeta le poignard dans la mer sur laquelle s'ouvrait la fenêtre de sa chambre. Puis, entourant le corps de Ctésias avec ses beaux bras potelés, elle lui dit « Lumière de mes yeux, tu reverras ta Plangon. Quoique ton récit m'ait fait souffrir, je te pardonne. Eros est plus fort que la volonté des simples mortels, et nul ne peut commander à son cœur. Je te donne ma chaîne. Porte-la, ta maîtresse irritée. Sois heureuse avec elle et pense quelquefois à Bakide de Samos, que tu avais juré d'aimer toujours. » Ctésias, éperdu de tant de générosité, couvrit les taillirs de baisers et résolut de rester avec elle et de ne revoir jamais Plangon. Mais il sentit bientôt qu'il n'aurait pas la force d'accomplir ce sacrifice, et quoiqu'il se taxât intérieurement de la plus noire ingratitude, il partit, emportant la chaîne de Bakide sa mienne. Dès qu'il eut mis le pied sur le Pirée, il prit deux porteurs, et sans se donner le temps de changer de vêtements, il courut chez les taillirs Plangon. En le voyant, les esclaves scythes firent le geste de délier les chaînes de leurs chiens monstrueux, mais Ctésias les apaisa en leur assurant qu'il apportait avec lui la fameuse chaîne d'or de Bakide de Samos. Menez-moi à votre maîtresse, dit Ctésias à une servante de Plangon. La servante l'introduisit avec ses deux porteurs. Plangon, dit Ctésias du seuil de la porte, en voyant que la Milésienne fronçait les sourcils, ne vous mettez pas en colère. Ne faites pas le geste de me chasser. J'ai rempli vos ordres, et je vous apporte la chaîne d'or de Bakide sa mienne. Il ouvrit le coffre, et en tira avec effort la chaîne d'or, qui était prodigieusement longue et lourde. Me ferez-vous encore manger par vos chiens et battre par vos scythes, ingrate et cruel Plangon ? Plangon se leva, fut à lui et, le serrant étroitement sur sa poitrine, ah oui, j'ai été méchante, dure, impitoyable. Je t'ai fait souffrir, mon cher cœur. Je ne sais comment je me punirais de tant de cruauté. Tu aimais Bakide et tu avais raison. Oh, elle vaut mieux que moi. Ce qu'elle vient de faire, oh, je n'aurais eu ni la force ni la générosité de le faire. C'est une grande âme. Une grande âme dans un beau corps. En effet, tu devais l'adorer. Il y a une légère rougeur au dernier éclair d'une jalousie qui s'éteignait. Passa sur la figure de Plangon. Dès ce jour, Ctésias, au comble de ses vœux, rentra en possession de ses privilèges et continua à vivre avec Plangon au grand désappointement de tous les merveilleux Athéniens. Plangon était charmante pour lui et semblait prendre à tâche d'effacer jusqu'au souvenir de ses précédentes rigueurs. Elle ne parlait pas de Bachide. Cependant, elle avait l'air plus rêveur qu'à l'ordinaire et paraissait agiter dans sa cervelle un projet important. Un matin, elle prit de petites tablettes de sycomore enduites d'une légère couche de cire et écrivit quelques lignes avec la pointe d'un stylet, appela un messager et lui remit les tablettes en lui disant de les porter le plus promptement possible à Samos chez Bakide l'Étahir. À quelques jours de là, Bakide reçut des mains du fidèle messager qui lui avait fait diligence les petites tablettes de sycomore dans une boîte de bois précieux où étaient enfermées deux unions de perles parfaitement rondes et du plus bel Orient. Voici ce que contenait la lettre. Plangon de Milet à Bakide de Samos, salut. Tu as donné à Ctésias de Colophon la chaîne d'or qui est toute ta richesse, et cela pour satisfaire le caprice d'une rivale. Cette action m'a tellement touché qu'elle a changé en amitié la haine que j'éprouvais pour toi. Tu m'as fait un présent bien splendide. Je veux t'en faire un plus précieux encore. Tu aimes Ctésias. Vends ta maison. Viens à Athènes. Mon palais sera le tien. Mes esclaves t'obéiront. Nous partagerons tout. Je n'en accepte même pas Ctésias. Il est à toi autant qu'à moi. Ni l'une ni l'autre, nous ne pouvons vivre sans lui. Vivons donc toutes deux avec lui. Porte-toi bien et sois belle, je t'attends. Un mois après, Bakide de Samos entrait chez Plangon la Milésienne avec deux mulets chargés d'argent. Plangon la baisa au front, la prit par la main et la mena à la chambre de Ctésias. Ctésias, dit-elle d'une voix douce comme un son de flûte, voilà une amie à vous que je vous amène. Ctésias se retourna. Le plus grand étonnement se peignit sur ses traits à la vue de Bachide. Eh bien, dit Plangon, c'est Bakide de Samos, ne reconnaissez-vous pas? Êtes-vous donc aussi oublieux que cela? « M'embrasse-la donc, on dirait que tu ne l'as jamais vue. » Et elle le poussa dans les bras de Bakide avec un geste impérieux et mutin d'une grâce charmante. On expliqua tout à Ctésias, qui fut ravi, comme vous pensez, car il n'avait jamais cessé d'aimer Bakide et son souvenir l'empêchait d'être parfaitement heureux. Si belles que fussent ses amours présentes, il ne pouvait s'empêcher de regretter ses amours passés, et l'idée de faire le malheur d'une femme si accomplie le rendait quelquefois triste au-delà de toute expression. Ctésias, Bakide et Plangon vécurent ainsi dans l'union la plus parfaite et menèrent dans leur palais une vie élyséenne digne d'être enviée par les dieux. Personne n'eût pu distinguer laquelle des deux amies préférait Ctésias. Et il eût été aussi difficile de dire si Plangon l'aimait mieux que Bacchide, ou Bacchide que Plangon. La statue d'Aphrodite fut replacée dans la chapelle du jardin, peinte et redorée à neuf. Les 20 génisses blanches à cornes dorées furent religieusement sacrifiées à Mercure, dieu de l'éloquence, et les 100 couples de colombes à Vénus, qui change les cœurs selon le vœu fait par Ctésias. Cette aventure fit du bruit, et les Grecs, émerveillés de la conduite de Plangon, joignirent à son nom celui de Pacifile. Voilà l'histoire de Plangon la Milésienne, comme on la contait dans les petits soupers d'Athènes au temps de Périclès. Excusez les fautes de l'auteur.